Bonsoir à toutes et à tous, c'est du grain à moudre d'été, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Les GAFAM sont dans le collimateur de Bruxelles et les amendes records se comptent en milliards. Encore tout récemment, fin juin, Google a été condamné à payer 2,420 milliards d'euros pour abus de position dominante. Mais la firme de Mountain View n'est pas la seule. Apple, Facebook, Amazon ou encore Microsoft ont tous eu affaire aux règles européennes de la concurrence. La commission, qui a plutôt été ces dernières années synonyme de dérégulation, de concurrence libre et non faussée, de libéralisation du marché, se serait-elle convertie à l'économie dirigée ? On en est évidemment très loin, mais face au poids de plus en plus important pris par les géants du net, l'enjeu n'est plus simplement une question économique, c'est bien un affrontement de pouvoir, de souveraineté qui se joue en ce moment, et même à certains égards, un défi démocratique. Dans cet affrontement, l'Union européenne mobilise donc un outil bien précis, celui des règles de la concurrence, un domaine qui a été profondément bouleversé par l'avènement du numérique, ce qui entraîne une redéfinition de la place de l'État et de son rapport au marché. Mais la politique peut-elle vraiment reprendre le pouvoir aux GAFA ? On pose la question ce soir dans du grain à moudre d'été, à écouter en direct sur France Culture et quand vous le souhaitez sur franceculture.fr. Et trois invités ce soir pour évoquer ce sujet. Anne Perrault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du cabinet de conseil en économie de la concurrence, le MAP. Et vous êtes aussi professeur d'économie à plusieurs endroits, notamment à l'université Paris 1, donc à Paris. Et enfin, vous avez été la vice-présidente de l'autorité de la concurrence. En face de vous, David Spector, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au CNRS, professeur associé à l'école d'économie de Paris. Vous avez publié très récemment, c'était en 2017 chez Odile Jacob, La gauche, la droite et le marché. Et tout le dernier chapitre était consacré justement à cette question, est-ce que la concurrence est de gauche ou de droite ? On va avoir l'occasion d'en discuter évidemment. Et enfin, en duplex, Nikos Smirnos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à Toulouse et ce qui me permet de remercier les équipes de France Bleu qui sont à Toulouse et qui vous accueillent dans leurs locaux ce soir. Nikos Smirnos, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, maître de conférence donc à l'université de Toulouse 3. Et vous avez publié vous aussi un livre qui va fortement nous intéresser ce soir. C'était aux éditions de l'INA cette année. Les GAFAM contre l'Internet, une économie politique du numérique. Alors, j'aimerais qu'on commence sur ce bouleversement qui a touché en définitive avec les GAFAM, le monde, on pourrait dire, de l'économie et de la concurrence. En quoi, Anne Perrault, ces GAFAM, donc je rappelle Google, Apple, Facebook, Amazon, à qui on ajoute maintenant Microsoft, sont-elles des industries particulières, différentes, je ne sais pas moi, d'une industrie de l'énergie, de l'agroalimentaire par exemple ?
Alors, à celles que vous avez citées, on pourrait en ajouter bien d'autres de ces plateformes numériques, Booking, Uber, sont aussi des entreprises de ce type. Alors, qu'ont-elles de spécifique ? Elles ont à la fois des côtés qui les rapprochent des entreprises traditionnelles que nous connaissons, mais aussi des spécificités qui les rendent finalement de nouveaux objets pour le droit de la concurrence et les autorités de concurrence. Cette spécificité, c'est que toutes ces plateformes reposent finalement sur le succès de la mise en relation de plusieurs catégories d'individus qui interagissent et qui ont besoin de ces plateformes pour leur servir de lieu d'intermédiation. Ce sont des acheteurs et des vendeurs, ou des hôtels et des personnes qui cherchent un hébergement, des personnes qui recherchent un contenu sur Internet, et puis des offreurs de contenu et évidemment des annonceurs publicitaires. Donc on voit que la caractéristique de ces plateformes, c'est qu'elles offrent un service qui est d'autant plus pertinent, que ce soit du côté des moteurs de recherche ou de la recherche d'une voiture pour se déplacer ou d'un hôtel, qu'elles mettent en relation un demandeur avec de très nombreux offreurs. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des effets de réseau indirects. Quand vous êtes un acheteur, vous souhaitez avoir beaucoup de vendeurs potentiels. Quand vous êtes un vendeur, vous souhaitez avoir affaire à beaucoup d'acheteurs potentiels. Et donc ça veut dire que le modèle qui réussit, c'est un modèle de grande taille, c'est-à-dire qui est capable de fédérer beaucoup d'offres et beaucoup beaucoup de demandes.
Et donc ça appelle une forme de concentration, alors, en quelque sorte, des acteurs.
Alors, concentration, oui, parce qu'il y a des mouvements de concentration, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais surtout, le modèle qui réussit sur son marché, c'est un modèle qui atteint cette taille critique par le jeu de ces effets boule de neige. Beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, etc. Et donc, quand ces entreprises sont de grande taille, eh bien, elles sont en position dominante. Alors ça, c'est pas forcément méchant en soi, mais quand on est en position dominante et qu'on adopte certains comportements, eh bien, on peut tomber dans l'abus de position dominante, et c'est ce qu'a sanctionné la Commission européenne dans le cas de Google.
Nikos Smirnos, pas bien méchant, une position dominante. Qu'est-ce que ces sociétés, des GAFA, changent au marché en définitive ?
Alors déjà, je pense qu'un aspect très important, c'est que les GAFAM brouillent un petit peu une distinction assez classique en économie entre entreprise et marché. C'est-à-dire que ces sociétés-là, elles sont à la fois des entreprises, mais aussi des marchés. Comme l'a dit Anne Perrault, ils mettent en contact une offre et une demande. Et donc, leur fonctionnement, il est assez différent d'une entreprise classique. En même temps, leurs actifs sont souvent dématérialisés. On voit bien dans le cas du redressement fiscal qui finalement apparemment ne va pas avoir lieu en France, qu'il est très difficile de faire la part de l'activité de ces acteurs et l'attacher à un lieu géographique, à un pays, à un contexte juridique et autre. Et puis un troisième facteur, moi il me semble, qui est très important aussi, c'est leur caractère mondial, leur taille. Je veux dire, l'humanité n'a jamais connu un service comme Facebook avec 2 milliards d'utilisateurs auxquels Facebook propose exactement le même service. Tous ces facteurs-là font que, effectivement, il est très compliqué aujourd'hui de réguler ces acteurs-là. Et le fait de ne pas les réguler pose aussi des questions qui sont au-delà de l'économie, des questions tout à fait politiques sur le contrôle que ces acteurs peuvent avoir sur toute une série d'activités, sur l'opinion publique, sur la formation.
On en parlera évidemment dans le cours de cette émission. Avant, on va quand même essayer de poser un peu les bases de ce que vous venez de dire, qui est absolument central, Nikos Smirnos, c'est-à-dire la spécificité. Donc on entend lorsque vous dites que vous voyez un peu plus de spécificité à ces entreprises qu'Anne Perrault. Et vous, qu'est-ce qu'il en est, David Spector? Vous êtes d'accord, confusion entre ces entreprises et le marché, dématérialisation, dimension mondiale inédite?
Oui, alors bon, je suis d'accord globalement avec ce qui a été dit, et notamment avec ce qu'a dit Anne Perrault sur les mécanismes économiques propres aux plateformes et aux effets de réseau qui caractérisent la plupart de ces entreprises. Je crois qu'il faut quand même aussi refroidir peut-être l'enthousiasme qu'on a tous spontanément quand il s'agit de dire que quelque chose est absolument nouveau. L'intermédiation, le fait qu'une entreprise crée un marché, bah, c'est quand même un peu ce que font les banques qui mettent en relation une masse d'emprunteurs et une masse de prêteurs. C'est ce que fait la presse, avec également déjà ce côté, ce qu'on appelle biface, dont je crois qu'Anne Perrault a dit un mot, avec des annonceurs d'un côté et de l'autre côté.
La concentration dans la presse pose notamment des lecteurs, des problèmes.
Absolument, mais des problèmes qui existent depuis longtemps.
Démocratique.
Alors la taille, évidemment, on parle de taille mondiale aujourd'hui parce que l'économie est mondialisée, mais des entreprises de très grande taille que le pouvoir politique a dû domestiquer, notamment au moyen de la politique de la concurrence, ça existe depuis plus d'un siècle, puisque c'est même pour cette raison qu'on a créé aux États-Unis la politique de la concurrence à la fin du 19e siècle. Donc je voudrais peut-être dire, avant qu'on parle du détail peut-être des
pratiques en cause, il y a quand même une spécificité en l'occurrence.
Il y a des spécificités en effet, mais si on regarde par exemple les problématiques que les autorités de concurrence ont eu à traiter des deux côtés de l'Atlantique au regard de plusieurs de ces GAFAM ou d'entreprises des mêmes secteurs, on s'aperçoit que certaines d'entre elles effectivement sont nouvelles, on en dira un mot, et c'est le cas par exemple pour la décision Google très récente, mais dans d'autres cas on a des problématiques, c'est-à-dire des qualifications d'infractions et des analyses par les autorités de concurrence qui sont en fait très classiques. Je peux prendre deux exemples. Une grande affaire un peu moins médiatisée que celles dont on a parlé parce qu'elles n'ont pas donné lieu à de grosses amendes mais à des engagements par les entreprises concernées. C'est une affaire qui a concerné Apple, Amazon et les principaux éditeurs à la fois aux États-Unis et en Europe et qui concernait la fixation du prix des livres électroniques, donc des e-books. Le cœur du sujet, c'était de savoir dans quelle mesure est-ce que les éditeurs avaient le droit de fixer eux-mêmes le prix de vente, c'est ce qu'on appelle donc l'imposition de prix de vente par les producteurs et non pas par les distributeurs. Bah là, il s'agissait d'une pratique qui aux États-Unis était interdite en vertu d'une jurisprudence qui datait de 1910.
Alors que chez nous, on a la loi du prix unique, évidemment.
Ah, prix unique du livre, mais du pas livre. Pour le...
Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est plus
habitués peut-être à avoir le prix fixe. Ce que je veux dire, c'est que là, on avait un outil juridique et une problématique très ancienne. Si on regarde une entreprise dont on n'a pas parlé, qui est Intel, mais qui est aussi au cœur de la nouvelle économie, puisqu'elle fabrique les processeurs.
C'était d'ailleurs une des premières grosses
absolument,
amendes.
Une amende de plus d'un milliard d'euros en 2013. Bah, la pratique en cause, c'était... alors, les faits étaient discutés, c'était l'imposition de clauses de quasi-exclusivité avec certains fabricants d'ordinateurs. C'est quasiment la même chose que ce qui a donné lieu au démantèlement de la Standard Oil, donc le géant du pétrole, en 1911 aux États-Unis. Donc certes, il y a beaucoup de nouveautés, et c'est très intéressant d'en parler, et je pense que c'est ce qu'on va faire peut-être
tout à fait,
dans la suite de cette émission, mais il ne faut pas penser que tout est nouveau.
Liminaire, vous avez bien fait de nous rappeler que malgré tout, ces sociétés répondent aux règles et aux lois de l'économie, ça paraît évident. Mais Anne Perrot, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit.
Je voulais juste dire que peut-être ce qui fait la spécificité, malgré tout, alors je suis d'accord avec ce que vient de dire David Spector sur le fait qu'il y a aussi beaucoup de points communs entre ces entreprises du numérique et les entreprises qu'on a l'habitude de connaître. Peut-être ce qui est vraiment spécifique au numérique, c'est que la grande taille est presque un élément de la qualité du service rendu par les plateformes. Google, par exemple, explique que la pertinence avec laquelle il classe, alors on pourra revenir évidemment et mettre en doute cette affirmation éventuellement, mais la pertinence de son algorithme, c'est-à-dire la pertinence avec laquelle il, en réponse à une requête d'un internaute, il affiche des résultats de cette requête, eh bien, Google explique que c'est lié au fait qu'il y a beaucoup d'internautes et c'est ça qui lui permet d'apprécier la pertinence statistique et puis aussi lié peut-être au profil de l'internaute qui fait la requête. Et donc, pour avoir de la pertinence, il faut avoir beaucoup, beaucoup de données pour affiner l'ordre dans lesquels on donne ces résultats, par exemple. Or, quand vous allez chercher du pain chez votre boulanger, la qualité de la baguette dépend pas du nombre de baguettes que le boulanger, du moins pas directement, il peut y avoir des liens indirects, mais la causalité est plutôt dans l'autre sens.
Oui, non, Nikos Smirnos, il y a aussi une autre dimension qui fait la spécificité, et c'est lié à ce que vient de dire Anne Perrot en parlant de la taille, de nécessité d'une grande taille, c'est que maintenant, quand on parle de ces sociétés, Google, Apple, Facebook, Amazon et d'autres, on en parle comme de véritables états, on parle de leur chiffre d'affaires cumulé de 470 milliards de dollars l'année dernière, en le comparant au PIB de la Pologne, par exemple, voilà, qui est le 25e PIB mondial. On parle de croissance, on parle même du Danemark, qui va établir une ambassade auprès des GAFA, envoyer un ambassadeur de chair et d'os, cette fois-ci, dans la Silicon Valley. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une dimension de ces entreprises qui prend une tournure presque étatique.
Oui, mais en même temps, il y a des grands paradoxes. Un des paradoxes, c'est par exemple que ces entreprises-là emploient très peu de gens. Si vous regardez par exemple le nombre total d'employés de ces cinq acteurs, GAFAM, qui par ailleurs aujourd'hui, en passant, représentent les cinq plus grosses capitalisations d'entreprises mondiales, quoi. Donc c'est les cinq plus grosses capitalisations au monde. Et ils emploient moins d'employés ensemble que Volkswagen tout seul. Donc, cette dimension étatique, si vous voulez, elle est liée à leur importance capitalistique, à leur importance politique, à leur importance dans notre quotidien, mais elle ne correspond pas, disons, à leur activité économique à proprement parler, pour ce qui est de la création de l'emploi, pour ce qui est de responsabilités sociales qui vont avec.
Mais alors précisément, qu'est-ce qui en fait des objets politiques ?
Alors, ce qui en fait des objets politiques, à mon sens, c'est le fait que ces acteurs-là ont une énorme influence aujourd'hui sur la formation des opinions, si on peut l'appeler comme ça. Alors, ça peut avoir trait à la consommation, c'est-à-dire ils ont une énorme emprise sur les choix de consommation des gens, mais sur tout un éventail des secteurs. Et là, c'est une différence... Par rapport, effectivement, ces acteurs-là ne sont pas neufs. On a déjà vu des acteurs de ce type, de cette taille-là par le passé. Mais des acteurs qui s'activent dans toute une série de secteurs qui sont très différents les uns aux autres, ça, je pense qu'on n'avait jamais vu. Donc, ils ont une emprise sur les choix de consommation, mais ils ont aussi également une emprise sur la formation de l'opinion sur des questions politiques. Puisque, par exemple, aujourd'hui, on sait que Facebook et Google est un duopole de la distribution de l'information d'actualité. C'est les deux lieux où l'écrasante majorité des citoyens s'informent. Et les informations qu'ils y trouvent sont filtrées à travers des algorithmes très complexes et opaques, qui sont des boîtes noires et qui, du coup peuvent avoir une influence importante sur notre perception du monde, sur notre perception des enjeux qui nous entourent.
Oui, donc il y a ce rôle d'acteur presque de la vie politique. On a vu récemment aux États-Unis Google, Apple, Amazon et Facebook intervenir sur des décisions concernant la COP21, concernant les décrets sur l'immigration pris par Donald Trump.
Tout à fait. Puis on a eu aussi le cas de fake news.
Évidemment, pendant la
campagne.
Là, on va dire que c'est peut-être moins volontaire, ou en tout cas, il y a une volonté de ne pas interagir là-dessus, mais ça nous emmènerait peut-être un peu loin. J'aimerais qu'on continue, dans le début de cette émission, de faire un petit peu la carte, de comprendre un petit peu ce qui rend ces entreprises si particulières. Donc, leur capacité d'intervenir, d'agir véritablement sur les consciences, en quelque sorte, David Spector, mais il y a aussi, ça s'intègre aussi, cette question dans un rapport entre les États et les puissances privées qui est de plus en plus en question. Je pense, par exemple, aux questions des tribunaux d'arbitrage, par exemple, dans les traités de libre-échange. Ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, les grosses sociétés sont considérées comme des acteurs politiques et des acteurs presque étatiques à part entière.
Oui, en effet. Alors, juste un mot sur ce que vient de dire Nikos Mirnaios, qui parlait effectivement de l'influence qui est complètement incontestable de ces entreprises sur la vie politique, la formation de l'opinion publique, avec, me semble-t-il, une tonalité un petit peu pessimiste, globalement sombre, et je pense qu'il y a effectivement beaucoup de sujets qui doivent conduire à beaucoup de vigilance. Maintenant, si on regarde non pas dans les pays démocratiques où il y a une pluralité de vues et où l'espace public est quand même assez ouvert, mais dans les pays où ce n'est pas le cas, le rôle qu'ont eu ces entreprises, ça a été par exemple de bouleverser et d'ouvrir un espace public qui était complètement verrouillé. Les printemps arabes, il ne faut pas oublier, ils ont commencé par des vidéos qui ont circulé en boucle sur des smartphones, donc de cette personne qui s'est immolée par le feu en Tunisie. Donc il faut aussi voir cet aspect quand on envisage cette question. Pour répondre à votre question sur le pouvoir de ces entreprises, donc il y a beaucoup de sujets, Nikos Mirnaios vient de le rappeler, qui ne relèvent pas strictement de la politique de la concurrence ou de problématiques strictement économiques, mais il y a un autre aspect qui peut-être désarme un tout petit peu les États, ou qui en tout cas doit conduire à une réflexion sur la manière de les réarmer. C'est que le droit de la concurrence a été conçu pour des entreprises, disons, plus classiques et, à certains égards, n'est pas complètement adapté à ces entreprises-là. Pour deux raisons. Une première raison, c'est que il s'agit de techniques, on parlait, Nikos Mirnaios l'a rappelé, d'algorithmes complexes que très peu de gens connaissent, et même quand on les connaît, encore faut-il les comprendre. Donc on a ce qu'on appelle, dans le jargon des économistes, une asymétrie d'information qui s'est manifestée de manière très spectaculaire il y a 3 ans, lorsque l'Europe, la Commission européenne, a dû se prononcer sur la fusion, l'acquisition de WhatsApp par Facebook, puisque il y avait des questions de base sur le fonctionnement du marché, par exemple la question consistant à savoir s'il serait possible à Facebook de lier les comptes de ces deux entreprises.
Il s'était engagé à ne pas le faire et finalement
c'était
ils l'ont fait.
C'était une question factuelle de base sur laquelle la Commission donc ne disposait pas de la réponse, et effectivement elle a imposé une amende de 100 millions d'euros parce qu'elle reproche à Facebook d'avoir donné une réponse fausse à cette question. Un autre point qui montre à quel point le droit doit sans doute évoluer, c'est que cette même concentration a failli ne pas être contrôlée par la Commission européenne parce que les normes de contrôle dépendent de la taille des entreprises. La taille est définie en fonction de mesures économiques comme le chiffre d'affaires. Or, WhatsApp, c'était 10 millions d'euros, c'est-à-dire le chiffre d'affaires d'un gros restaurant, mais la transaction était pour 19 milliards. Et donc, il y a une réflexion en cours qui vient d'aboutir d'ailleurs en Allemagne à un changement de règles pour changer les règles de contrôle et pouvoir en quelque sorte attraper dans les mailles du filet des opérations qui sinon ne tomberaient pas dedans.
On rentre dans le dur du sujet là, Anne Perrot, et notamment sur cette utilisation des règles de la concurrence comme outil de pouvoir des États ou de l'Union européenne pour attraper, en quelque sorte, limiter le pouvoir de ces GAFA. Et ce que semble nous dire David Spector, c'est qu'aujourd'hui, ces règles de la concurrence, elles sont pas tout à fait adéquates au monde économique, ou en tout cas à ces entreprises telles qu'elles existent.
Alors, ça nous fait rentrer dans un autre débat, finalement, qui est connexe à celui-là, qui est de savoir comment est-ce que on peut contrôler, finalement, le comportement de ces entreprises. Quand il s'agit de contrôler des entreprises classiques, même de très grande taille, on considère que le droit de la concurrence a à sa disposition toute une série d'outils qui permettent d'analyser le comportement des entreprises dominantes et, in fine, de conclure si oui ou non on a là un abus de position dominante ou pas. Alors, ce qui rend la chose compliquée dans le domaine des plateformes numériques, c'est des choses qui ont été évoquées par David Spector, c'est-à-dire que, par exemple, beaucoup de choses, le moteur repose vraiment sur un algorithme dont il est difficile de comprendre si oui ou non il distord des comportements. Ce qui est reproché à Google dans la décision récente de la commission, c'est d'avoir favorisé son propre moteur de recherche verticale. Alors, comparateur de prix. D'avoir favorisé Google Shopping au détriment des autres comparateurs de prix. Donc, on voit bien que là, il y a un peu la nécessité de pouvoir mettre un peu les mains dans le cambouis de l'algorithme de Google, ou en tout cas de pouvoir observer les effets.
Et on a aussi l'impression que c'est le petit bout de la lorgnette. Enfin, je veux dire, s'attaquer à Google Shopping, est-ce que c'est vraiment la première chose à faire quand on voit les problèmes de concurrence plus généraux plutôt que
Google? C'est-à-dire que là, il y avait une plainte en l'occurrence. Oui. Donc la commission, elle instruit les plaintes qu'on lui amène, et c'est sur ce domaine et sur Android, qui est un autre problème examiné en ce moment par la commission, que la commission a été appelée à se prononcer. Mais finalement, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur le fait de savoir si ces outils ex post, c'est-à-dire une fois que les comportements sont apparus et se sont manifestés sur le marché, qui sont le propre des outils des autorités de concurrence, sont suffisants ou non. Et il y a des voix qui se font entendre et qui disent, mais au
légiférer,
fond,
réguler,
voilà, il faudrait réglementer tout ça, ex ante, il faudrait intervenir ex ante, etc. Alors ça, c'est tout à fait contraire à l'ADN de la politique de la concurrence. Pourquoi ? Parce que la politique de la concurrence, elle dit, tous ces comportements-là vont se dissoudre dans l'arrivée de nouveaux concurrents qui vont discipliner les comportements des dominants. Alors, est-ce que c'est aussi vrai dans le domaine du numérique qu'ailleurs ? Ça, c'est vraiment un sujet de débat.
David Spector, rapidement, on a l'impression, pour rebondir sur ce que vient de dire Anne Perrot, que justement c'est ça le problème, c'est que l'arrivée de nouveaux concurrents, elle semble presque impossible. À chaque fois qu'un nouveau concurrent semble émerger, ou même qu'une start-up, une petite entreprise arrive, elle est absorbée par Google, Apple, Facebook ou un autre.
Ça, c'est un sujet dont les autorités de concurrence peuvent se saisir au moyen justement du contrôle des concentrations. Si on lit la décision dans Facebook, WhatsApp dont je parlais tout à l'heure, il y en a aussi une au moment de l'acquisition d'Instagram, on voit que les autorités de concurrence ont le pouvoir d'interdire des concentrations si elles pensent qu'elles vont limiter la concurrence, sous réserve d'ajustements comme un peu techniques, comme celui dont je parlais tout à l'heure, qui consiste à changer un petit peu les règles de compétence de la Commission européenne ou d'autres autorités, qui leur permettraient d'accomplir cette tâche encore mieux. Alors, sur la politique de la concurrence, effectivement, il y a sur la question que mentionnait Anne, l'écueil que soulèvent évidemment ces GAFAM consiste à dire que on est dans un monde tellement fluctuant, tellement changeant, dans lequel la prochaine innovation, personne ne la connaît, pas même ces GAFAM, qu'il vaut mieux laisser le génie du libre-marché jouer son rôle. Et le précédent qui est souvent invoqué, c'est celui des grands procès Microsoft à la fin des années 90 et au début des années 2000, donc d'abord aux États-Unis et ensuite en Europe, dans lesquels, à l'époque lors de laquelle on pensait que Microsoft disposait vraiment d'un monopole inexpugnable, et c'était quelques années avant la montée en puissance de Google, la création de Facebook, etc. Je voulais juste mentionner que parmi les outils dont on dispose, il y a effectivement le contrôle des concentrations, la répression de pratiques comme celles qui sont reprochées à Google, donc dans la décision très récente. Il y en a d'autres. Par exemple, aux États-Unis, il y a quelques jours, plusieurs dizaines ou centaines de grands médias, de grands journaux, se sont alliés pour demander à pouvoir, par dérogation au droit général de la concurrence, négocier collectivement avec Google et Facebook pour équilibrer le pouvoir de marché. Là encore, c'est une déclinaison d'un outil qui existent déjà dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec la technologie, par exemple les centrales d'achat pour les hypermarchés, donc pour acheter des yaourts, donc c'est très différent de l'information, mais c'est finalement des problématiques très voisines, et l'autorité de la concurrence française a rendu un avis sur cette question il y a 2 ans, donc il existe quand même des outils.
Nikos Mirnos, faut-il donc laisser le marché se réguler lui-même sur ces questions-là, ou faut-il, selon vous, avoir une approche en amont de ces questions, ex ante, comme dirait Anne Perrot, parce qu'il y a une spécificité des GAFAM.
Évidemment qu'il ne faut pas laisser le marché agir tout seul. On voit bien les résultats aujourd'hui. On est face à une entreprise comme Google qui fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires en France et qu'on n'arrive pas à taxer. Est-ce que ça, c'est une solution pour
Est-ce que c'est exactement la même chose, la question de la concurrence et la question de la possibilité
alors, c'est
de,
pas,
de,
c'est
de taxer.
Pas la même chose. Mais si je peux juste revenir à la
bien
question
sûr,
précédente. Donc les droits, effectivement, aujourd'hui, il n'est pas adapté. Même s'il y a des moyens juridiques, il faut réfléchir sur d'autres moyens juridiques. Mais ce n'est pas la seule dimension. Moi, j'aimerais bien ajouter aussi deux autres dimensions. La première, c'est les moyens dont disposent les régulateurs. Et le deuxième, c'est la volonté politique de réguler. Alors, en termes de moyens, aujourd'hui, on est face à un résultat, à une amende qui est infligée par la Commission européenne, 7 ans après les débuts de la plainte. Pendant toutes ces années-là, Google a continué à profiter de ses avantages. Le procès de Microsoft a duré 10 ans. Donc, pourquoi ? Parce que les régulateurs ne disposent pas de moyens juridiques, des moyens techniques, par exemple, pour comprendre le fonctionnement de ces algorithmes-là et de le contrôler de manière efficace. Donc le moyen, ça veut dire de l'argent public, parce que les régulateurs ne peuvent pas être financés autrement. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à mettre les budgets nécessaires pour que les services de ce type disposent de ces moyens ? Deuxième paramètre, la volonté politique. Moi, je veux bien que la commission actuelle prennent les taureaux par les cornes avec cette affaire de Google, et je trouve ça très positif. Mais il n'empêche que le président de cette commission s'appelle Jean-Claude Juncker. C'était l'ancien premier ministre de Luxembourg qui a négocié tous les accords gré à gré, des accords fiscaux, notamment avec Amazon, dans une logique de concurrence fiscale européenne. Donc si finalement la ligne politique n'échange pas, je pense pas qu'on pourra vraiment modifier le rapport de force avec ces types d'acteurs.
France Culture, du grain à moudre, Raphaël Bourgois.
Et on parle ce soir politique et concurrence. La politique peut-elle reprendre le pouvoir aux GAFA ? On en parle avec trois invités. David Spector, auteur de La gauche, la droite et le marché, publié chez Odile Jacob en 2017. Vous êtes professeur associé à l'École d'économie de Paris. Anne Perrault, qui est membre du cabinet de conseil en économie de concurrence, le MAP. Et vous avez été vice-présidente de l'autorité de la concurrence. Et enfin, en duplex depuis Toulouse, Nikos Smirnos. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, maître de conférence à l'Université de Toulouse 3 et auteur de « Les GAFAM contre Internet, une économie politique du numérique ». On passe encore à une autre question, peut-être avec ce que vient de dire Nikos Smirnos, juste avant cette courte interruption. Le retour de l'État, finalement, sur le marché, par le biais de la régulation, et notamment en finançant les régulateurs. Anne Perrault, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je crois qu'il y a deux sujets dans ce qui a été abordé à l'instant par Nikos Smirnos. Il y a la question de la concurrence fiscale. La concurrence fiscale, c'est un problème parce que, en fait, c'est le déplacement de la concurrence dont on parle ce soir au niveau des États. Et là, on assiste à quelque chose qui est extrêmement délétère dans le cas des plateformes numériques. C'est que les plateformes numériques, c'est des entreprises qui peuvent délocaliser leur production et choisir de la localiser là où elles seront le moins taxées.
Oui, il n'y a pas d'usine, c'est quand même plus facile de
localiser les gens. Ça, c'est un problème différent de la concurrence entre entreprises. Il y a de la concurrence entre les États, et vous voyez que paradoxalement, on a utilisé le droit de la concurrence pour essayer d'attraper Apple sous l'angle de l'aide d'État en disant bah, finalement, consentir à Apple ce cadeau fiscal que
donc
lui a fait l'Irlande,
c'est un
cadeau fiscal, donc c'est une aide d'État. Et donc, moi, autorité de concurrence européenne, je vais essayer d'attraper Apple sous cet angle-là. Et on arrive à la situation paradoxale que l'Irlande, qui utilise cet argument de l'incitation fiscale pour localiser des activités sur son territoire, ne veut pas récupérer...
On parle de 13 milliards de dollars.
Voilà. Et l'Irlande n'en veut pas. Parce que le calcul que fait l'Irlande, c'est de dire mais si je commence à attraper Apple, alors du coup je vais perdre ma crédibilité comme pays d'accueil pour ces plateformes et du coup je vais perdre beaucoup d'activités économiques. Donc ça, on voit bien que c'est un problème. Donc la solution à ce problème-là, elle réside pas vraiment dans les mains des autorités de concurrence. Il faudrait concevoir, et d'ailleurs il y a beaucoup de discussions à ce sujet.
Mais quand même au niveau des États, encore une fois, comme le fait remarquer Nikos Smirnos.
Oui, mais les aides d'État, c'est quelque chose d'un tout petit peu
marginal.
Non, mais
ce que marginal. Je veux dire, c'est que là, ce sont les États qui peuvent se mettre d'accord, notamment au niveau européen,
mais
pour pas se faire concurrence.
Mais sur le plan de l'harmonisation fiscale, ou au moins avoir un instrument fiscal qui permette d'attraper les bénéfices des plateformes et de les taxer. taxés de manière uniforme en Europe.
David Spector, sur cette question du rôle de l'État, justement, comme pour aider les régulateurs, et aussi dans ce bourbier de la concurrence fiscale.
Alors, deux points. D'abord, je voudrais dire quelque chose d'un tout petit peu moins pessimiste, peut-être, que ce que vient de dire Nikos Mirnaios.
Vous êtes notre optimiste, ce soir.
Non, mais quand on regarde les procédures, il y a les grandes procédures médiatiques qui sont celles qui donnent lieu à des très grandes amendes, qui sont très importantes, mais il y a aussi toutes celles qui, en fait, ne vont pas jusque-là parce qu'elles donnent lieu à un accord, ce qu'on appelle une transaction entre les entreprises en cause et la Commission européenne, où ça peut aussi se passer avec les autorités nationales. Et dans ce cas-là, ça peut aller quand même plus vite que les délais que regrettait à juste titre Nikos Mirnaios. Je parlais de l'affaire concernant les e-books, donc entre Apple, Amazon et les éditeurs. Ça s'est réglé assez vite. Les affaires concernant Microsoft ont été peut-être un petit peu plus rapides aussi que ce qui a été mentionné. Donc il y a ce premier point. Un deuxième point, c'est que qui aide la Commission européenne contre les GAFAM ? Eh bien, parfois, les GAFAM eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que c'est un sigle qui a son utilité. D'abord, il sonne bien. Ensuite, il y a effectivement des points communs, ce que rappelait Anne Perrot tout à l'heure. Mais ces entreprises ont souvent des intérêts divergents. Dans cette affaire que je viens d'évoquer des e-books, eh bien, il y avait Amazon contre Apple. La décision Google qui vient d'être rendue, alors là, on ne la connaît pas encore dans tous ses détails, puisque la décision n'est pas encore publiée. Mais dans la mesure où il s'agit d'enjoindre Google à faire plus de place aux autres comparateurs de prix, je ne serais pas étonné qu'on s'aperçoive que ça favorise aussi des acteurs comme Amazon et eBay, ainsi que d'autres entreprises plus petites, dont Anne Perrot a dit les noms pour certains tout à l'heure. Donc, on n'a pas un bloc monolithique de grandes méchantes entreprises privées face à des États démunis. Alors, c'est vrai, ce que disait Nikos Mirnaios est vrai. C'est vrai que les équipes des autorités de concurrence sont souvent débordées face aux légions d'avocats que déploient les grandes entreprises. Mais il y a quand même aussi le fait qu'elles se font seconder souvent par des plaignants qui peuvent être d'autres GAFAM. Sur la question de la concurrence fiscale dont parlaient les deux autres invités, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal, puisque aux États-Unis, le fédéralisme fiscal est une réalité. Il y a un impôt sur les sociétés de 35%, donc qui s'applique à tout le monde. En Europe, on a la concurrence fiscale, et le droit de la concurrence permet d'atteindre une forme très particulière et au fond très limitée de concurrence fiscale. Ce sont les cas dans lesquels la concurrence fiscale se traduit non pas par une baisse générale de l'impôt sur les sociétés, là on ne peut rien faire, mais quand ça se traduit par des baisses ciblées en faveur de certaines entreprises. Donc d'un point de vue économique, ça n'a aucun sens d'avoir une compétence européenne pour lutter contre cette pratique-là, mais pas contre les baisses générales. Pour lutter contre les baisses générales, il faut, comme dit Anne Perrot, un accord des États européens. Et là, une fois n'est pas coutume, je serais plutôt pessimiste, parce que ça, c'est un sujet qui relève de l'unanimité des États européens. Et alors, c'est vrai qu'il y a des progrès qui sont faits. Maintenant, pour avoir un accord à 28, pour avoir, par exemple, un taux minimum d'impôt sur les sociétés, ça paraît difficile, puisque n'importe quel État qui a intérêt à la concurrence fiscale peut bloquer ces discussions.
Nikos Mirnaios, je vais vous donner à vous aussi l'occasion d'être optimiste sur les questions notamment d'intervention de la Commission européenne sur les problèmes de concurrence. L'actuelle présidente de l'autorité de la concurrence en France, Isabelle De Silva, a déclaré « On s'est longtemps demandé si le mode de fonctionnement de ces sociétés de l'Internet était si complexe que les autorités de la concurrence ne pouvaient pas agir. La Commission vient de prouver l'inverse. » Elle a déclaré ça fin juin. Est-ce que vous pensez aussi qu'on rentre avec cette condamnation de Google dans une nouvelle ère et qu'on a malgré tout la possibilité aujourd'hui, plus qu'une prise de conscience, véritablement les moyens peut-être de limiter les abus?
Non, je ne le pense pas vraiment. Donc je reste dans ma posture pessimiste dans ce
genre. J'aurais essayé.
En fait, si vous voulez, moi je reviens sur ce qu'Anne Perrot a dit tout à l'heure parce que ça me paraît fondamental. C'est-à-dire qu'on est face à un énorme paradoxe dans ce cas-là. Ce qui est d'un côté, pour favoriser la concurrence, donc on essaye de limiter la taille de ces entreprises, ou à la limite aussi de les démanteler, c'est aussi une possibilité hein, qui est un peu utopique mais qui peut exister. Mais en même temps, on est conscient que leur utilité sociale dépend de leur taille. C'est-à-dire que le plus elles sont grosses, en fait, le plus leur fonctionnement s'améliore. Donc on est face à ces paradoxes. On veut diminuer la taille de ces sociétés, alors qu'en même temps, c'est leur taille, finalement, qui crée leur utilité. Donc, comment faire? Face à ces paradoxes, moi, j'ai une autre proposition, alors qui peut paraître un peu utopique, mais qui me semble une piste intéressante. Ces entreprises-là revêtent fondamentalement, pour moi, un caractère des services publics. Ce sont des monopoles sur des secteurs, ils sont gratuits, ils touchent un public énorme, et ils sont associés directement à des enjeux politiques très forts sur l'opinion, sur l'économie, etc. Est-ce que c'est légitime que le contrôle d'acteurs de ce type soit mis entre les mains uniquement de leurs actionnaires? Moi, je pense qu'on peut explorer la piste qui consisterait à imposer, à garder la taille de ces entreprises parce que c'est la source, justement, de leur utilité et de leur efficacité, mais essayer de proposer un autre modèle de gouvernance, un modèle démocratique où le public, les citoyens auraient leur mot à dire sur le fonctionnement des algorithmes, sur les choix techniques, etc.
Vous n'êtes pas le seul à réfléchir dans ce sens-là. Il y a un article dans le Monde Diplo de ce mois-ci d'Evgeny Morozov qui parle, lui, par exemple, de nationaliser les données. C'est-à-dire, on sait qu'aujourd'hui, les données, les big data sont un outil, sont une valeur économique très, très, très forte. Et si elles étaient nationalisées, les citoyens auraient peut-être un peu plus leur mot à dire sur la question.
Je pense que des propositions nouvelles de ce type sont intéressantes à creuser. Aujourd'hui, par exemple, un mouvement qui s'appelle coopérativisme des plateformes, avec des gens qui essayent de mettre en place de ce type de plateforme avec une autre gouvernance plus démocratique. Et je pense que ce sont des pistes qui seront amenées à être de plus en plus explorées dans le futur.
Et bien justement, on va les mettre en débat rapidement parce qu'il nous reste très peu de temps. Mais je voulais signaler tout de même que votre idée de démantèlement n'est pas si utopique, puisque Sigmar Gabriel, qui est l'ancien ministre de l'économie allemand et qu'on ne peut pas vraiment soupçonner d'être un afro-gauchiste, proposait récemment comme ultime recours le démantèlement de Google pour empêcher le géant américain de pratiquer ce qu'il appelle l'éviction systématique de ses concurrents. Donc on voit que c'est pas si utopique que ça, mais peut-être que vous voulez réagir sur la nécessité de démocratiser un petit peu les choses, Anne Perrot.
Alors, moi je voulais réagir sur le mot « données » qui presque a été prononcé pour la première fois à ce stade de l'émission, ce qui est un peu paradoxal. En réalité...
parce que c'est la valeur première finalement
voilà,
de ce que
vendent... Voilà, c'est la valeur première. Le carburant de toutes ces plateformes, c'est les données. Alors toute la question, c'est est-ce que les données et la détention de ces données par les plateformes sont un frein à la démocratie et est-ce qu'elles sont un frein à la concurrence? Alors, sur le sujet concurrence, justement, l'autorité française et l'autorité allemande de concurrence ont produit ensemble un rapport qui essaye d'évaluer jusqu'à quel point le fait de détenir beaucoup de données est un frein à l'entrée de nouveaux acteurs, à l'innovation, etc. Et conclut plutôt que dans ce secteur numérique, en fait, il y a tellement d'innovations qui se font quotidiennement que les données détenues par un acteur ne sont pas un obstacle à l'entrée des acteurs suivants. Et c'est vrai qu'on peut le constater. Google n'a pas empêché Facebook d'entrer sur le marché. Quand bien même ils sont concurrents, finalement, sur un marché de la publicité et des annonces ciblées. Et donc, finalement, ce sont des concurrents. Facebook n'a pas empêché Twitter de rentrer. Twitter n'a pas empêcher Uber, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours de l'entrée sur ce marché. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce n'est pas de l'entrée sur le même segment de marché. Ouais. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, malgré tout, c'est que les données n'empêchent pas l'entrée. Après, il y a un autre sujet qui sont qu'est-ce qu'on doit faire des données publiques? Et on voit bien que c'est un sujet connexe. Qu'est-ce que les gouvernements doivent faire de leurs données? Est-ce que l'open data...
Et les données privées aussi,
les données publiques et les données privées. Est-ce que ces données doivent être ouvertes à tous? Est-ce que chacun doit pouvoir piocher dedans pour fournir un nouveau service? C'est évidemment une question de concurrence.
Un mot de conclusion, David Spector.
Oui, alors effectivement, sur ces questions des données, il y a, en plus de tout ce que vient de dire Anne Perrot, il y a la question de savoir dans quelle mesure est-ce que, parce qu'elles constitueraient une barrière à l'entrée, il faudrait organiser une forme d'accès à certaines données, alors non seulement au public, à des entités publiques, mais aussi éventuellement à d'autres acteurs privés, à des entrants. C'est une question qui se pose, mais quand même, je veux dire que la nouveauté des solutions évoquées par Nikos Mirnaios, elle est quand même assez relative. Quand on parle de démantèlement, je rappelais tout à l'heure le démantèlement de la Standard Oil en 1911, et sinon le raisonnement global qui consiste à dire, eh bien voilà, ce qui crée la qualité, la valeur, c'est la taille, mais la taille est incompatible avec la concurrence, donc il faut nationaliser, c'est le cœur, disons, du discours socialiste étatiste depuis environ 1850. Non pas pour dire que tout est chaud là-dedans et qu'il ne faut pas d'intervention publique, mais je crois simplement que cette idée que, puisque la concurrence est impossible et qu'on a besoin de la taille, il faut nationaliser, c'est pas une idée foncièrement nouvelle, et c'est une idée qui...
Ce qui ne veut pas dire que c'est pas une bonne idée.
Ce qui ne veut pas dire que c'est pas une bonne idée, dans une certaine mesure. En tout cas, non, je crois qu'il faut pas adhérer non plus à l'autre extrême qui serait le discours, disons, ultra-libéral consistant à nier le rôle de la puissance publique, puisque notamment la recherche scientifique en informatique, y compris en informatique théorique, a joué un rôle essentiel dans la création de tous ces services. Il n'empêche que l'initiative privée, c'est quand même aussi... Ça a quand même aussi été essentiel pour la création de Google, Facebook et d'autres entreprises. Et donc, il faut quand même se poser la question du maintien de l'initiative privée et donc de l'incitation qui disparaîtrait si on nationalisait tout.
Voilà, le débat continue. Évidemment, on n'allait pas l'épuiser ce soir. Merci à tous les trois. David Spector, je rappelle, la gauche, la droite et le marché. C'est chez Odile Jacob. Nikos Smirnos, je rappelle également, les GAFAM contre l'Internet, une économie politique du numérique aux éditions de l'INA. Et je remercie encore une fois les équipes de France Bleu qui vous ont accueillis à Toulouse. Et enfin, Anne Perrault, bah, pas de livre là, sûrement. J'ai pas de livre à annoncer, mais c'est pas grave. Je vous remercie d'être venu ce soir pour nous éclairer sur ces sujets. L'émission a été préparée ce soir, comme chaque soir, par Pierre Testard, Daphné Abgral, Camille Ferré, Cédric Fuentes et Juliette Monti. À la réalisation, Anne-Laure Chanel. À la prise de son, Jean-Guy Lamèche.